aujourd'hui. Moi, j'ai un peu raclé les tiroirs pour, enfin, pour trouver ce sujet qui a fini par venir, parce que j'écoute beaucoup l'émission d'Arte en ce moment sur les bookmakers. Et en fait, je me suis dit que pour tous les aspirants écrivains, écrivaines, il y avait tout un passage qui était, dont on parlait jamais dans cette émission, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son manuscrit, en fait. Qu'est-ce que c'est un contrat avec une maison d'édition? C'est quoi les douilles à éviter, parce qu'il y en a beaucoup quand même? Comment ça se passe, etc. Et en fait, donc nous, dans les lessiveuses, je sais pas si on l'avait déjà dit, je pense, mais bon, on le redit. On a fait un master de création littéraire et on a eu un cours, assez tardif d'ailleurs pendant ce parcours, un cours sur les contrats d'édition et les droits d'auteur, etc. Et du coup, c'était assez intéressant de voir que ça reste assez précaire, en fait. Mais c'est bien de...
Très joyeuse encore.
Ouais. Mais c'est bien de revenir dessus. Donc voilà, j'ai repioché un peu dans mes cours et puis j'ai essayé de faire une synthèse. Donc j'espère que ça va pas être trop chiant. Sinon, Laura, tu fais
des... Je te coupe, je shut down tout.
Ouais, voilà, tu mets de la musique, tu fais des petites pitreries, tu fais quelque chose.
C'est intéressant parce que quand bien même on n'est pas issu de ce milieu-là, je pense que c'est un truc qui doit être valable pour pas mal d'autres domaines. Hein. De toute façon, tu vas le dire par la suite, les douilles. Il y en a partout. Mm. Donc, je pense qu'on verra après, mais on en discutera. Ça ne s'appliquera pas que au domaine du milieu de l'édition.
Voilà. Et donc, voilà. Donc, une fois qu'on a terminé son manuscrit, qu'on sent qu'on a tout donné, qu'on l'a fait lire. D'ailleurs, c'est un conseil que souvent nous ont donné nos professeurs. Et nos professeurs dans le master, soit ce sont des professeurs chercheurs, soit ce sont des intervenants professeurs qui sont auteurs donc, et autrices, donc ils savent un peu de quoi ils parlent, et donc ils nous conseillaient quand même de, voilà, quand on sent qu'on a écrit quelque chose, que c'est important, de le faire relire à des proches, ou, enfin les proches c'est toujours un peu compliqué pour avoir un avis vraiment neutre ou enfin objectif, mais voilà, mettons que vous avez votre manuscrit, vous pensez qu'il est terminé, qu'est-ce que vous en faites pour le publier? En fait, il y a trois options en France. La première, trois façons de publier. Donc, à compte d'éditeur, ça c'est le truc le plus courant, c'est vous allez vous envoyer votre manuscrit dans une maison d'édition et c'est la maison d'édition qui prend en charge tous les frais de publication et il vous offre une rémunération, c'est les droits d'auteur. Donc, vous touchez un pourcentage par livre vendu. Et vous avez un avaloir, peut-être, ça dépend, on reviendra là-dessus. Donc ça, c'est la forme la plus courante, en fait. Sinon, il y a deux autres manières qui sont assez décriées sur la question des droits d'auteur, qui ne sont pas vraiment conseillées. Il y a ce qu'on appelle publier à compte d'auteur. Et en fait, vous payez pour être publié. Vous allez dans une maison d'édition, et vous payez, vous, pour que votre livre soit publié. Et en général, les prix, c'est à peu près dans les 3000 euros. Ben, ça peut largement être plus. Et la maison d'édition n'aura aucune raison d'aller défendre votre manuscrit auprès des libraires, en fait. Puisque après, pour que votre livre il soit en vitrine et qu'on le voit, il faut que la maison d'édition le défende auprès des librairies. Donc, si vous avez vous-même payé pour que votre manuscrit soit publié, la maison d'édition ne bougera pas le petit doigt pour qu'il soit mis en valeur, en fait. Ça sera juste un plus dans leur catalogue. Donc, c'est vrai que c'est un peu décrié... Après, ça peut être une solution. Bon. Et sinon, il y a l'auto-édition. Ça peut être l'option la plus rentable, on va dire, si vous ne trouvez pas de maison d'édition. Mais c'est vous qui prenez en charge la correction, la mise en page, l'impression, le stockage, l'envoi, la diffusion, etc. Donc bon, c'est crevant et ça peut vite devenir hyper lourd au niveau de la charge mentale. Et puis même au niveau des sous, ça ne suit pas toujours. Donc bon, voilà, en gros, il y a ces trois manières-là. Soit vous payez pour vous publié. Normalement, on ne devrait pas payer pour être publié dans une maison d'édition, puisque c'est son travail. Mais bon, ça existe. Sinon, l'auto-édition, où vous vous chargez de tout. Et voilà. Ou sinon, bah voilà, l'option la plus courante quand même, ça reste publié à compte d'éditeur. Et donc, bon voilà, une fois que vous avez choisi votre option, il y a trois choses à faire avant d'envoyer le manuscrit. Il faut cibler la bonne maison d'édition. Il faut ensuite envoyer son manuscrit. Donc, on va voir comment il faut faire. Et ensuite, il faut lire son contrat d'édition et négocier. Et donc, ça, c'est une autre partie encore. Mais c'est assez intéressant, ça. Je me suis pris au jeu, moi, pendant les cours. Je me suis vue grande négociatrice de mes propres contrats. C'était intéressant. Alors, pour cibler sa maison d'édition... Alors, ça, moi, je le savais pas avant de mettre un pied dans le master. Quoique je m'intéresse beaucoup aux livres, à la lecture, à la littérature. Si je pouvais faire ça toute ma journée, bon, bah, ça irait. Ce que je fais un petit peu, on va pas se cacher. Hein. Mais en fait, il y a des... Voilà, chaque maison d'édition a sa propre ligne éditoriale, en général. Parce que là, en tête, on peut tout de suite avoir des maisons d'édition qui sont connues. Maisons, les éditions de minuit, Gallimard, Hachette... si on estime que Hachette a une politique éditoriale, ce dont je doute, voilà.
Ouais.
À part vendre, je sais. Voilà. Non, mais il y a les maisons d'édition donc ont une politique éditoriale et il faut étudier cette ligne éditoriale avant d'envoyer son manuscrit. On n'envoie pas son manuscrit dans n'importe quelle maison d'édition ou voilà, on l'envoie un peu au pif ou dans toute celle qui peut nous venir en tête. Et c'est pas ça. Vous pouvez le faire, mais c'est dommage parce que c'est gaspiller beaucoup d'argent et d'énergie aussi et d'engagement personnel pour rien. Parce qu'en fait, une ligne éditoriale forte, c'est-à-dire qui a un genre littéraire particulier, qui a des thématiques particulières, ou alors on peut regarder aussi la longueur des textes parfois, ou sinon quel public, c'est-à-dire quel âge cible, l'intérêt, etc. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées dans les romans historiques. Donc ça, c'est leur ligne éditoriale forte. Il y a des maisons d'édition... qui sont spécialisés dans la jeunesse, ou dans la poésie, ou dans le théâtre. Donc là, c'est sûr qu'envoyer un roman de voyage, un journal de voyage, par exemple, bon, bah, ça marchera pas, ça tapera à côté. Donc ça, il faut regarder. Par exemple, et aussi, ça permet de voir si c'est une maison d'édition de confiance. Parce que, voilà, quand on veut envoyer son manuscrit, on pense d'abord aux grandes maisons, et ensuite, on commence à découvrir qu'il y a plein d'autres maisons d'édition qui ne sont pas forcément connues, mais pourtant qui sont présentes dans les librairies et qui sont un peu connues dans le microcosme. Donc, il faut s'intéresser à ça. Et donc, une maison d'édition de confiance, voilà, elle a une ligne éditoriale forte. Ça permet de montrer que cette maison d'édition a une vraie identité et ça convaincra beaucoup mieux les libraires et aussi... bah, les lecteurs. Moi, je pense par exemple à la maison d'édition X. C'est une maison d'édition féministe, radicale, hein, féministe, qui a une ligne éditoriale vraiment très forte sur les mêmes thématiques, sur la même politique, etc. Et donc, on sait que quand on envoie un manuscrit à X, on sait pourquoi on le fait, et c'est assez précis. Il y a par exemple... je sais pas, est-ce que tu te souviens du nom de la maison d'édition qui ont publié Colza, qu'on avait reçu ici d'ailleurs ?
Ah oui, Blast.
Blast, voilà, merci.
Enfin, on n'a pas reçu Blast, du coup on a reçu Al et...
Ouais, on a reçu Al Bellac et Manon Alla, ouais. Mais là, c'est vrai que la maison d'édition Blast, pour le coup, c'est une maison d'édition qui a une ligne éditoriale très forte. C'est-à-dire elle est engagée, elle est politisée, elle est féministe, et elle publie des textes assez courts en général. Enfin, ça reste des petits livres, hein, c'est pas des livres de 1500 pages, quoi. Donc ça, c'est un exemple, voilà. Donc vous étudiez la ligne éditoriale de la maison d'édition, et ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est étudier le catalogue. Le catalogue dans une maison d'édition, c'est... bon, voilà... c'est comment elles vont répertorier leur collection, en fait. Puisqu'en fait, un manuscrit, il n'est jamais publié pour lui seul. Il faut toujours qu'il soit pour une maison d'édition, hein, pour qu'il permette, pour qu'il ait une existence, ce manuscrit. Il est intégré à une collection, à un catalogue. Il n'est jamais publié juste comme ça pour lui tout seul. Parce que sinon, en fait, il ne se greffe pas à la production de la maison d'édition, et du coup, c'est un flop, puisqu'on aura du mal à le présenter en librairie. Donc, quand une maison d'édition a un catalogue qui est déjà assez solide, ça permet de juger des moyens financiers, c'est une bonne technique. Et donc, pour ça, il suffit d'aller sur leur site internet et de regarder ce qu'ils présentent comme catalogue, leurs auteurs, leurs autrices, etc. Le conseil de la prof qui était hyper intéressant, c'est de faire attention à la surproduction littéraire. Les grosses maisons d'édition publient trop. Voilà, ça c'est évident. Et en fait, votre manuscrit, si vous êtes un primo-auteur ou autrice, votre manuscrit, il va juste être un plus pour leur catalogue et il ne sera pas défendu en librairie. Et en fait, c'est un manuscrit qui va se perdre. Puisque, voilà, souvent, les grosses maisons d'édition, elles impriment tellement de bouquins et elles publient tellement que, voilà, le suivi peut être un petit peu négligé de ces primo-auteurs. C'est juste un plus pour leur catalogue, il est intégré au catalogue, et puis, s'il faut, vous le verrez même pas en librairie. C'est ce que racontait notamment Maria Pourchet, sans le dire comme ça, mais dans un des épisodes de Bookmakers, en fait, elle a été chez Gallimard pour une de ses premières publications, et en fait, elle a jamais vu son livre en librairie, parce que les tirages ont été ridicules, parce qu'il n'a pas été défendu en librairie par son éditeur, et surtout, elle n'a pas eu beaucoup de suivi. Elle racontait qu'elle se sentait un peu perdue. Elle voyait pas beaucoup, elle avait pas beaucoup de contact avec son éditeur, et il avait pas beaucoup de retours. Et en fait, effectivement, c'est des maisons d'édition. En fait, ils sont tellement, par exemple, chez Gallimard, je ne sais pas combien d'auteurs et d'autrices il doit y avoir là-bas.
Je me souviens, pendant la période Covid, je ne sais pas si tu as vu l'article passer, mais c'était évident, hein, les gens ne se sont pas découverts un talent, entre guillemets, pour l'écriture, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont eu le temps de terminer leurs manuscrits, et puis peut-être qu'il y en a qui se sont lancés. Et en fait, ils ont envoyé tellement en masse leurs manuscrits que Gallimard a mis un message en mode « Mais stop là, ne nous envoyez plus rien, parce qu'en fait... »
Oui, ouais, je me souviens, on en avait parlé, mais c'est vrai qu'en plus, la prof, elle nous avait dit dans son cours que, par exemple, c'était un petit conseil comme ça qu'elle nous donnait, il faut se méfier des éditeurs qui courent après les textes, qui disent, quand vous allez dans Contact pour envoyer un manuscrit, si vous voyez des choses... type contactez-nous, envoyez vos textes, appel à texte. En général, il faut se méfier, hein, parce que elle nous expliquait qu'un éditeur qui se respecte reçoit par jour entre 20 et 50 manuscrits. Et ça, c'est juste une maison d'édition un peu lambda. Et c'est sûr que si on va dans les Hachette, dans les Gallimard, dans les maisons de minuit, enfin éditions de minuit, je sais pas à combien on est par jour. On doit être à plus de 100, manuscrits par jour, hein, je pense. Hein. Effectivement. Mais c'est vrai, pendant le confinement, ils avaient arrêté d'en prendre.
Mais là, je pense que même sans le confinement, maintenant, ça doit être toujours un peu le cas. Et puis, c'est juste ce que tu dis par rapport. Mais parce que si on nous... Nous, c'est parce qu'on a eu ce cours-là. Enfin, c'est hyper bizarre à dire, mais si on nous dit pas de... Il y a peut-être un truc un peu péjoratif, injustement, qu'on a en tête par rapport aux petites maisons d'édition. Je sais pas pourquoi on a toujours
cette envie
de grandeur, en mode... Mais non, je ne vais pas aller dans une petite...
Parce que ça ne rassure pas, je pense.
Ouais, alors qu'en fait, indéniablement, si on réfléchit deux secondes, le suivi va être meilleur dans une petite maison d'édition.
C'est exactement ça, parce qu'en fait, le manuscrit que vous allez leur donner, si cette maison d'édition qui est plus petite, ça ne veut pas dire qu'elle soit minuscule d'ailleurs, ou modeste, ou voilà, mais disons qu'elle est plus petite, mais sérieuse, très professionnelle, très engagée, elle va vraiment défendre votre manuscrit. Ça va pas juste être un petit plus pour leur catalogue, et puis voilà, c'est histoire de faire du chiffre. Ça va vraiment être un vrai projet qui va leur tenir à cœur, et vous allez le voir en librairie, vous allez le voir dans des librairies, enfin voilà, ça c'est hyper important. Et je pense que quand on ne sait pas ça, forcément, on envoie son manuscrit en priorité à Gallimard ou à Hachette ou dans des grosses maisons d'édition parce que ça rassure, parce qu'elles sont connues, parce qu'elles sont partout. Mais c'est vrai que ces maisons d'édition visent à imposer leur présence en librairie. Donc elles ont une politique d'édition qui est hyper agressive. Et surtout, il y a beaucoup de turnover. Elle nous disait, la prof, attention, si vous voyez une grosse maison d'édition comme ça, il y a beaucoup de changements d'équipe, c'est-à-dire que vous allez voir défiler, en fait, les personnes qui sont censées vous suivre, et vous allez être complètement perdu. Et c'est vrai que dans des grosses maisons d'édition comme ça, ça reste logique, vous êtes un primo-auteur, vous êtes personne, vous n'êtes pas connu, et il faut gagner sa place, en fait. Et ça se dispute en fonction du nombre de ventes. Sauf que si votre livre, il n'apparaît pas en librairie, vous n'allez pas vendre grand-chose. Et c'est vrai que là, le choix à faire, beaucoup plus pertinent, c'est une maison d'édition un petit peu plus petite, mais qui reste... Il y en a qui ont pignon sur rue et qui sont quand même... qui ont des productions importantes. Hein. Et je pense que c'est... Enfin, elle nous disait que c'est quand même la meilleure des solutions. Hein. Après, c'est vrai qu'à l'inverse, si elle est vraiment, vraiment toute, toute petite, ou très, très localisée, ou qu'elle publie peu... Bon, elle va se concentrer sur votre manuscrit, c'est évident, ça sera important pour elle. Par contre, c'est vrai qu'elles vont perdre un peu de crédibilité, bon, c'est un peu sévère de dire ça, mais que ça va être un peu plus difficile à défendre devant les libraires et que forcément, le manuscrit, peut-être qu'il pourrait, bah voilà, un petit peu, pas passer à la trappe, mais être un peu moins visible, ça c'est sûr. Donc ça reste un travail de funambule, mais je trouvais ça bien de rappeler que voilà, c'est pas parce qu'une maison d'édition est grosse que c'est intelligent, c'est le choix intelligent quoi. Ça reste, on est quand même dans une période, enfin dans une époque tout simplement de surproduction, et la surproduction littéraire, c'est Alain Damasio qui disait ça, il disait qu'en fait la littérature aujourd'hui elle est noyée dans le livre moyen. Et bon, je le trouve vraiment
c'est dur.
Bien sévère, mais en même temps, c'est Alain Damasio, hein, c'est vraiment, on reconnaît un peu ça, il a de la gueule, il est comme ça. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où... enfin bref, ça on va en reparler un peu plus tard d'ailleurs, parce que je voulais en reparler avec toi de qu'est-ce qu'on en pense, de si on se décide de faire ça de sa vie, comment on fait pour produire et vivre décemment en fait de l'art, tout simplement. Mais ça, on en reparlera après. Et donc, bon voilà, donc faut savoir cibler sa maison d'édition, petit récapitulage, donc on regarde la ligne éditoriale, on étudie le catalogue, on fait attention à la surproduction littéraire, et on regarde si les livres sont de qualité, tout simplement. Et ça, c'est des trucs qui... c'est beaucoup plus esthétique, hein, comme opinion. C'est-à-dire l'aspect, en fait, du livre. En fait, c'est important. Moi, combien de fois j'ai acheté, et plein de potes, et ma mère, et enfin, plein de gens que je connais, combien de fois on a acheté un bouquin juste parce qu'il était, qu'on le trouvait beau, en fait. Donc, l'objet livre en soi, c'est quand même important. Tout ce qui attire l'œil, en fait, la couverture, l'impression, la mise en page, il faut que le rendu soit professionnel, et il faut qu'on soit fier, en fait. C'est, je veux dire, un livre, on n'en fera pas tout le temps partout dans sa vie, en fait. Donc, c'est un objet qu'on doit être fier, on doit pouvoir le défendre aussi. Et donc, il faut bien regarder dans les librairies, se faire une petite liste, comme ça, de maisons d'édition. On peut demander conseil aux libraires. Et voilà, après, on vérifie sur Internet le catalogue, les collections, notre manuscrit. Est-ce qu'il correspond aux thématiques? Est-ce que c'est bien de l'envoyer maintenant? Est-ce que, voilà. Regardez, on se fait une liste. Et ensuite, on avait vu un point... assez rapide, enfin là-dessus c'est un peu compliqué, c'est de faire attention à la diffusion, à la distribution en fait. Il faut en fait faire un tour en librairie et observer les maisons d'édition, ça permet de voir si elle est présente en librairie, si les livres sont bien voilà, exposés, machin, dans les rayons. Et il faut essayer de vérifier si les livres du catalogue de cette maison d'édition ont reçu un retour de presse. Parce que ça compte aussi. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est des avis qu'elle nous avait donnés, mais je trouve que c'est un peu compliqué à vérifier. Et puis, voilà, ça reste des conseils de pros. Après, on est d'accord, la plupart du temps, quand on reçoit une réponse, c'est assez... c'est déjà ça, en fait. Quand on reçoit un oui, on reçoit un oui. Donc, en général, un. Donc, c'est vrai qu'après, c'est compliqué de se dire « Ah, j'ai reçu un oui de Gallimard, je vais me faire bouffer. » Bon, ça reste mettre un pied. Enfin, voilà, c'est particulier. Mais bon, pensez à envoyer votre manuscrit, pas que aux grosses maisons, en tout cas. Ça, c'est important.
Et puis, si vous avez un oui, comme l'anecdote qu'elle nous avait racontée, c'est laisser sur messagerie pour rappeler après, redescendre un peu, aller hurler son coup en mode « Yes !» et avoir la tête... bien à plat, entre
guillemets. Ouais, froide. Elle nous avait dit de poker face, hein. Faut pas montrer ses émotions, faut pas montrer qu'on est candide, faut pas montrer qu'on est content presque. C'est un peu dommage, je suis d'accord, mais bon, c'est... Mais je vais en reparler, ouais, de comment faire pour négocier, en fait, parce que ça, c'est important. Et donc, une fois que vous avez choisi votre maison d'édition, vous vous êtes fait une liste, parce que c'est bon, hein, d'envoyer son manuscrit, surtout si vous êtes primo auteur ou autrice. Elle nous avait dit 20 maisons d'édition. Je trouve toujours ça énorme, en fait. Moi, si je devais le faire, j'en envoierais 10, et après, on voit, déjà. Parce que 20, je trouve que c'est énorme.
Ouais, alors après, ça... Bah, ça dépend, peut-être qu'elle en a envoyé 20 parce qu'elle estimait que son bouquin rentrait dans les 20 maisons d'édition, et encore de façon un peu large, elle a peut-être trouvé
des
filons. Toi, t'estimes 10, parce que je pense, connaissant ton écriture un peu... Voilà, quoi, c'est bien aussi de cibler. Et si toi, tu estimes que c'est 10, c'est 10. Et puis s'il y en a qui vont estimer que c'est 30, c'est 30. Mais je pense qu'en tout cas, si le temps que les gens prennent, les écrivains et les écrivaines prennent à écrire leur bouquin, doit être limite identique au temps qu'ils vont prendre pour sélectionner et envoyer aux maisons d'édition. Parce que si on fait juste déjà la liste de ce que tu viens de nous donner pour l'instant, c'est conséquent.
Ouais, et puis c'est vrai que des maisons d'édition, moi c'est vrai que je me disais ça en cours pendant que j'écoutais la prof l'année dernière, je me disais, elle nous disait de voilà, faire attention au style, au ton de la maison d'édition, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de publier. Alors quand on connaît pas, on fait comment pour repérer le ton? Alors moi, je veux bien, j'ai fini par comprendre en étant dans ce master, en entendant les profs parler comme ça des maisons d'édition, j'ai compris que par exemple les éditions de minuit, c'est une édition, une maison d'édition où on fait très attention au style, où le style est hyper appuyé. D'accord, mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, pour Le Seuil, Robert Laffont, même Gallimard? Enfin, je suis désolée, je vois pas en particulier un ton Gallimard. Pour moi, ils sont dans la surproduction, ils publient de tout. Ils ont des collections, des catalogues, poésie, théâtre, littérature du monde, je sais pas comment ils appellent ça, littérature étrangère, probablement, des trucs comme ça, mais bon... Comment on fait ? Enfin, quand on ne sait pas viser le ton, bon, je pense qu'on vise le ton. Non, moi, je pense qu'on vise surtout la thématique et l'engagement. Si la maison d'édition, elle est plus petite, je pense que, voilà. Si, par exemple, moi, ma première publication, ça serait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais mettons un recueil de nouvelles, je pense que je l'enverrais, par exemple, aux éditions de L'Olivier. Parce que je sais qu'ils ont gagné le Goncourt de nouvelles, par exemple. Donc, ils sont versés là-dedans, ils ont l'habitude, machin, truc. Des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Donc, c'est vrai que savoir cibler les maisons d'édition et envoyer son manuscrit, ça prend du temps, en fait. Faut aller en librairie, faut regarder ce qu'ils font, faut regarder quel prix ils ont gagné, faut regarder plein de choses, en fait. Faut pas l'envoyer partout, comme ça. Et pas en envoyer qu'un, aussi. Pas juste un manuscrit, faudra en envoyer plusieurs, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle nous avait dit 20. Mais moi, 20, je trouve ça énorme.
Et puis surtout que souvent, c'est manuscrit papier, je crois. Donc,
ouais, ça dépend.
Ça peut engager des coûts qui sont pas...
Ouais, elle nous avait dit que quand ils demandent papier, ouais. Bah, ça coûte, en fait, parce qu'il faut le faire relier, c'est comme un mémoire. Bon, voilà, quand même, 20 maisons, c'est énorme. Mais enfin, bon. Et alors, justement... Une fois qu'on a ciblé ces petites maisons d'édition, comment est-ce qu'on envoie son manuscrit ? Donc, une fois qu'on s'est fait une liste, on va sur le site internet de la maison d'édition. Normalement, c'est affiché dans Contact, hein, ou dans Voir les modalités d'envoi. Vous allez dans Contact, c'est écrit. Comment est-ce qu'on envoie leur manuscrit ? Alors, si c'est un envoi numérique, on le met en PDF. S'ils veulent en Word, ils le demandent. Donc, voilà. Donc, PDF, sauf si s'il demande autrement. Si c'est un envoi par la poste, bah faut être classique, faut être lisible. C'est du taille 12, Times New Roman, justifié, interligne, numéroté les pages. Bon voilà. Et surtout pas d'envoi recommandé. Absolument interdit.
Tiens, ça j'avais oublié.
Ouais, je l'ai souligné deux fois dans le cours, donc c'est que ça devait être important.
Je sais plus trop. C'est pour quelle raison ?
Bah parce que ça se fait pas. Enfin c'est. Enfin, elle nous avait dit que, en gros, c'est un peu mettre un peu fort l'accent. Ils ont pas le temps déjà.
Donc,
parfois, si.
Qu'ils ont bien reçu
ton ouais, temps. Ils ont pas le temps en fait. Donc ça peut être mal vu. Donc ça peut vous tirer une balle dans le pied direct d'emblée. Donc évitez. Pas d'envoi recommandé. Et ensuite, comment ça se présente ? Donc la première page, on a le titre, on a les coordonnées personnelles, et c'est en impression recto. Hein. Faut pas faire recto verso. Ça, je savais, j'avais oublié complètement aussi. Donc, juste, on fait du recto.
Ça, je pense que c'est pour des côtés pratiques pour la lecture, surtout.
Ouais, peut-être, c'est vrai. Vous corrigez tout ça, regardez. Ouais. Donc, voilà, la première page, titre, coordonnées, impression recto, voilà. Et ensuite, on ajoute au manuscrit deux choses. La lettre d'accompagnement et le synopsis, ça, c'est obligatoire. La lettre d'accompagnement, ça présente le projet, une page, c'est tout. Pourquoi on se dirige vers cette maison d'édition ? Dire si c'est juste un tome unique ou une série, et le pitch, on explique très vite fait, en une ou deux lignes. Hein. La lettre d'accompagnement, c'est juste une page. Hein. Et après, on a le synopsis, pareil, c'est une page. Ça résume intégralement tout le manuscrit. Et c'est pas un document qui est fait pour donner envie de lire, hein. C'est un document de travail. Donc, faut pas hésiter à dévoiler la fin, faut pas faire d'effet de suspense, voilà. On présente les personnages, on dit ce qui se passe, comment, pourquoi. Voilà, c'est un vrai document de travail, c'est tout. Et en fait, ça permet de... C'est important parce que faut voir que dans la chaîne d'une maison d'édition, un manuscrit passe par tout un tas de petites étapes et que le stagiaire, au bout de la chaîne, il reçoit les manuscrits dans la maison d'édition, on va dire. Et en fait, il fait le tri entre les manuscrits, ça j'aime pas dire, mais correct, entre très très gros guillemets, et les autres, c'est-à-dire les manuscrits qui arrivent comme ça, sans la forme, sans l'aide d'accompagnement, sans synopsis. Si c'est une maison d'édition qui en reçoit beaucoup directement, bah, ça va faire le tri, quoi. Donc c'est vrai que c'est important de respecter ça, même si je trouve ça con. Parce qu'encore une fois, s'il faut, c'est marqué nulle part. La personne qui n'est pas au courant, qui a produit un travail de qualité, s'il faut, son manuscrit passe à la trappe. Bon, encore une fois, je trouve ça con, mais c'est comme ça. Voilà. Et la prof nous avait donné des conseils d'ailleurs, éviter d'envoyer son manuscrit en période de Noël, en janvier et en septembre, parce que c'est les rentrées ou les vacances, et là ils bombardent quoi. Ou pendant le confinement, si jamais on s'en remange un jour. Mais je pense pas.
Bon, après ça a peut-être fait naître des belles choses pour certaines personnes, j'espère.
Bah oui, voilà. Alors, et ensuite elle nous avait fait un cours que je trouvais sympa aussi, elle était mignonne, sur les réponses. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les réponses, quoi. Et là, on touchait du doigt un petit peu la réalité concrète du boulot. Je trouvais ça intéressant. Alors, première chose, il faut se préparer mentalement au refus. Hein, c'est ce qui ne veut pas dire perdre espoir, pas du tout, hein, faut jamais abandonner. C'est simplement, il faut renforcer son mental quand même. C'est normal d'être refusé et il faut prendre de la distance. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. On a beaucoup de professeurs qui disaient, dans ce boulot, il y a 50% de travail et il y a 50% de chance. Voilà. Parce que le manuscrit dépend des catalogues, il dépend des collections, il passe par toute une série d'étapes sélectives, et ça veut pas dire qu'en fait vous avez fait du mauvais boulot ou que vous écrivez mal, en fait. Hein. Ça, faut éviter de se le dire quand même, parce que c'est pas forcément vrai, encore une fois. C'est important. Alors, on peut faire un petit point rapide sur les critères de sélection du manuscrit. En fait, voilà. Le manuscrit passe par toute une espèce de rouage dans une grosse machinerie. Donc, le premier tri, c'est le premier au bout de, en bas de l'échelle, quoi, l'employé, je sais pas comment on appelle ce poste, quoi. Moi, j'ai écrit stagiaire dans mon cours, mais c'est pour déconner, c'est pas des stagiaires qui font ça, je sais pas.
Non, oui, les ceux qui font les lectures.
Oui, voilà, enfin voilà.
C'est des assistants.
Ceux qui reçoivent le premier, le manuscrit, ouais. Quoi. Voilà, comme ça, par envoi.
Et c'est de la pression quand même, hein, parce que du coup, je pense que tu te poses quand même pas mal de fois la question de...
Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas eux qui font... c'est pas forcément un stagiaire qui fait ça, tu vois. Mais et en fait, c'est eux qui reçoivent le manuscrit, et c'est eux qui éliminent, en fait. Ils regardent s'il y a la lettre, s'il y a le synopsis, si c'est en forme, sinon ils éliminent. Et donc, c'est eux, ils font le premier tri. Ensuite, quand le manuscrit il est pris, les sélectionnés, ils passent au secrétaire d'édition. Et ensuite, cette secrétaire d'édition fait une réunion avec le comité éditorial. Donc là, ils regardent qu'est-ce qu'ils ont. Et la sélection finale, c'est le directeur éditorial qui juge à quelle collection faut ajouter le manuscrit. Puisqu'encore une fois, un manuscrit n'est jamais publié que pour lui-même. On l'ajoute obligatoirement à une collection. Donc, parfois, votre manuscrit, il va être parfait, il va être très bien écrit, sauf que 6 mois auparavant, il y a une auteure ou une autrice de la même collection qui a traité le même sujet. Bah là, c'est concurrence interne, puisque le livre de la personne est encore en vente, donc ils ne peuvent pas le publier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes refusé, ça ne veut pas forcément dire que c'est du mauvais boulot, en fait. C'est encore une fois, voilà, parfois ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de la qualité du travail fourni. C'est une question de circonstances, voilà, faut s'y préparer aussi. Mais voilà, faut pas se décourager, les facteurs, ils sont quand même multiples, mais faut s'habituer, en fait, ça fait partie du taf. Après, elle nous avait dit, c'est normal d'être dans l'affect en tant que primo-auteur et autrice. Elle nous avait dit aussi que cibler les grosses maisons d'édition, ça engage à une remise en question de soi plus forte, c'est logique. Parce que vous allez être peut-être parfois un petit peu laissé à vous-même. Donc il va falloir un petit peu plus se remettre en question, ce qui n'est pas forcément très sain, on est d'accord. Voilà, donc le délai de réponse, en général, c'est environ 3 à 6 mois. Et le conseil de la prof qui est bien, c'est qu'il faut se faire une liste et noter quand est-ce qu'on a envoyé son manuscrit, et aussi donc, les dates d'envoi et les dates de réponse. Parce que comme ça, ça permet, on se fait un tableau, on sait que ça dure à peu près 3 à 6 mois, et quand on commence à avoir des réponses, ou quand on n'en a pas, justement, ça permet de jauger à quel moment c'est bon d'envoyer un mail de relance, un mail poli, pour savoir est-ce que le manuscrit a été bien reçu ou lu. Et ensuite, elle nous a donné plusieurs cas de réponses possibles. Alors, le cas le plus probable et le plus courant, c'est le refus par le silence.
C'est nul. Qui arrive dans toutes les circonstances de la vie en général.
Ouais, c'est vrai que là-dessus...
Le ghosting. Voilà.
Je fais des flashbacks avec ma situation personnelle, puisque je suis en recherche de taf et parfois...
Alors, ça va, mais t'inquiète que, par expérience personnelle, il y a beaucoup plus de réponses à Toulouse que dans d'autres régions.
Ah, donc en plus, il faut être content de ça. Bon, ouais, écoute, voilà, je note. Écoute. Donc voilà, le refus par silence, c'est le plus courant parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça qu'en plus, en recommander par-dessus, déconseillé absolument. Sinon, c'est le non standard par écrit. Voilà, on refuse, sans plus. Sinon, il y a le refus expliqué. C'est un retour travaillé. Ils vous disent pourquoi, ils vous disent comment ça marche pas. Et là, c'est là qu'il faut un peu faire attention à ça, c'est important. Déjà, c'est bien. Vraiment, c'est super bien. Même quand vous avez une lettre de refus qui vous dit simplement non, déjà, c'est super bien. Je me souviens, on avait une fille dans la promo qui avait encadré un non. Elle l'avait gardé. Ah bon? Et déjà, ça, c'est... Élise. Bref. Et déjà, ça, c'était une victoire. Ouais, c'est vous dire si on reçoit pas beaucoup de retours.
En plus, ça, tu vas le dire après, je pense, s'il y a des critiques constructives.
Ouais, mais c'est ça. Et en fait, s'il y a des critiques constructives, ils vous expliquent pourquoi est-ce que le manuscrit est refusé, c'est bien d'essayer de mettre le pied dans la porte, on va dire. C'est-à-dire, on recontacte la maison d'édition, on fait un retour par mail, on dit merci beaucoup, on est content que ça ait plu, et on se propose, si vous êtes d'accord, hein, parce qu'encore une fois, ça vous regarde vous, mais si vous êtes d'accord, d'accepter de retravailler le texte en fonction des remarques. Donc, si l'équipe de la maison d'édition est d'accord, vous proposez d'attendre le contrat. Parce qu'il ne faut jamais, jamais accepter de travailler sans avoir signé de contrat. Hein. Parce que c'était un exemple qu'elle avait donné la prof, ça lui était arrivé. En fait, elle a fait un récit qui était inspiré de sa vie d'ailleurs, sur... bref. Et elle a reçu une réponse d'une maison d'édition qui lui a dit « Écoutez, nous, ça nous plaît, mais il faudrait cibler un autre âge. Est-ce que... parce que nous, on aimerait quelque chose plus ciblé vers les adolescents ou une tranche d'âge comme ça ?» qui est très très dur à cibler d'ailleurs, hein. Franchement, retravailler un texte en ciblant les adolescents, là franchement, honnêtement, je sais pas comment on fait, parce que c'est un public, enfin adolescent, ça va de quoi, de 13 à 20 ans, c'est quoi l'adolescence, c'est vraiment dur, et en fait elle l'a fait, donc elle a travaillé pendant, elle a dit max 6 mois, mais je crois que c'était vraiment 3 mois de boulot intense, et puis après, elle a une vie, elle a un boulot à côté, donc elle avait pas le temps de faire ça tout le temps, donc elle a énormément travaillé, elle a changé plein la trame narrative, elle a tout retravaillé son texte, et ils l'ont pas prise. Parce qu'en fait, elle a pas signé de contrat. Donc c'est pas parce qu'ils vous le disent au téléphone, et en plus le pire c'est que c'est courant. Le problème c'est qu'ils le disent par téléphone, c'est absolument impossible à prouver, et s'ils vous le disent par mail, une promesse d'engagement comme ça, ça a aucun poids juridique. Donc en fait, sans contrat, on retravaille pas le bouquin. Voilà. C'est à noter. Et ensuite, dernière solution, si c'est le oui, enfin, tant espéré. Justement, elle nous conseillait que si on n'arrive pas à faire retomber l'émotion quand le téléphone sonne et qu'on sait que c'est les maisons d'édition, faut pas répondre tout de suite. Vaut mieux qu'il laisse un message, vaut mieux rappeler après, il n'y a pas de souci, mais faut garder la tête froide et faut pas montrer l'émotion, quoi. Parce que ça montre qu'on est capable de négocier. Surtout quand vous êtes primo-auteur, il y a tellement d'abus. Il y a tellement d'abus dans la signature des contrats, le pourcentage touché, tout ça, ils en profitent. Donc vraiment, vaut mieux se protéger et on peut être content et éructé de joie, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on ne le fait pas au téléphone avec l'éditeur en fait. On le fait pour soi-même et après, on rappelle avec la tête froide. Et voilà. Donc elle nous disait que voilà, la marche à suivre, elle conseille, on remercie, on demande ce qui a plu et ensuite on demande comment ça se passe pour la suite. Le travail éditorial, qu'est-ce qui va être, et enfin, on attend le contrat. Voilà. Et si l'éditeur, d'ailleurs, demande si le manuscrit a été envoyé à d'autres maisons d'édition, faut toujours dire oui. Hein. Même si c'est pas vrai, vous dites oui. Oui, j'ai envoyé ailleurs. Et il n'y a aucune obligation de dire lesquelles. Voilà. C'est important, c'est une petite astuce pour négocier, voilà. Et les questions à poser, d'ailleurs, Si vous n'êtes pas très à l'aise pour le faire par téléphone directement, ça sera plus tard. Hein. Je veux dire, il y aura d'autres prises de contact, c'est-à-dire par mail, ou alors si souvent ils peuvent vous proposer un café, ils peuvent vous proposer de se rencontrer. Et là, à ce moment-là, les questions à poser, c'est quand est-ce qu'on reçoit le contrat, quel type de contrat, combien de tirages, la valoir, le placement en librairie, le pourcentage de droits d'auteur. Bon, voilà. Et elle disait que c'était toujours mieux d'avoir ça, ce genre de réponse par mail, parce qu'au moins il y a une preuve, même si ça n'a pas de poids juridique, il y a une preuve. Et comme ça, ça permet d'être plus à l'aise dans la confrontation si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise. En plus, ben voilà, c'est plein d'émotions, c'est le premier contrat, donc bon, ça peut être compliqué de garder la tête froide, ça, mais bon, il y en a qui peuvent très bien y arriver. Hein. Donc ensuite, une fois qu'on reçoit le contrat, là, vraiment, on le lit tout en entier. Et ensuite, on fait un retour détaillé avec tout ce qui ne nous va pas. Parce qu'en fait, c'est important de se rappeler qu'il faut toujours être dans la négociation, qu'une maison d'édition envoie uniquement des contrats qui l'arrangent à elle. Mais une maison d'édition qui ne négocie pas, c'est extrêmement rare. S'il faut, ça n'existe même pas. Parce qu'en fait, ça fait partie du taf. Donc, il faut vraiment montrer qu'on connaît ses droits, et qu'on va négocier son contrat et pas accepter n'importe quoi. Alors, d'après les auteurs professionnels de la... Alors, c'est la Société des gens de lettres, un truc hyper... nomination hyper pompeuse pour parler d'un truc qui est vachement bien. C'est des auteurs qui se sont ligués et qui ont mis en place une charte, des exemples de contrats, comment remplir son rapport à la TVA, la fiscalité, voilà, enfin, bref. Donc, c'est la Société des gens de lettres, c'est la SGDL.
Ça, c'est génial.
Et ça, c'est génial, quoi. Mmh. Parce que ça vous protège, ça vous explique. Ils ont des juristes à leur disposition qui ont rédigé des articles pour vous protéger, pour vous informer. Donc, c'est quand même hyper important. Donc, pour simplifier, parce que c'est quand même assez complexe, on est en plein dans le truc juridique. Simplement, ce qu'ils recommandent, c'est que pour un contrat papier, il ne faut pas accepter en dessous de 10% pour chaque livre vendu. Donc là, on parle de droits d'auteur. Donc les droits d'auteur, c'est ce que vous touchez par livre vendu. Donc souvent, une maison d'édition va proposer, si elle est petite, ça va être 6% pour vous, pour l'auteur. Et si elle est un peu plus grande, elle va proposer peut-être 7, 8. Mais c'est bien de négocier à 10. Ou à la limite, vous acceptez à 9, mais alors vous demandez un avaloir. Mais je vais revenir sur ce que c'est un avaloir. Ça, c'est hyper important. Donc, parce qu'en fait, 10% pour chaque livre vendu, c'est pas énorme du tout. Hein. Surtout que le livre, faut pas s'attendre... Bon, si c'est une première, si c'est un premier tirage, il sera pas édité en livre de poche. Donc, il coûtera peut-être 15 euros, 20 euros max. Enfin, c'est déjà 20 euros, c'est déjà cher hein, pour un bouquin, surtout si vous n'êtes pas connu. Et là, là-dessus, vous allez toucher, enfin voilà, 10% pour chaque livre vendu. Vous n'allez pas, voilà. Donc, c'est sûr que quand une maison d'édition propose en dessous de 10%, genre 5%, ça devient obscène. Enfin, là, vraiment, faut pas accepter ça, quoi. Donc, 10% pour chaque livre vendu pour la version papier, et pour la version numérique, ils conseillent 20%, ils conseillent plus, parce qu'il y a moins de frais, hein, logiquement. Voilà. Faut savoir aussi que sur ce prix-là global, le diffuseur et le distributeur prennent 20%. Donc c'est énorme. Et en France, elle nous expliquait qu'en fait, les droits d'auteur sont assez ridicules parce que le texte en soi, il est super bien protégé. Mais le statut d'auteur en soi, il est vraiment complètement oublié. Et en France, un auteur ou une autrice ne saura jamais combien il a vendu exactement. Jamais. Donc c'est toujours des fourchettes. À peu près. Il y a des paliers qui existent. Mais bon, voilà, c'est un statut d'autrice, d'auteur qui est compliqué en France. Après, il y a beaucoup d'aides. Hein. Il y a des résidences d'auteurs, vous pouvez être payé pour faire des lectures publiques. Bon, il y a moyen de subsister et même de vivre très, 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 très bien si vous faites beaucoup de ventes. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que c'est pas considéré comme un métier. Ça veut dire que vous n'avez pas de retraite, par exemple. C'est pas un métier en ce sens-là, quoi. Après, c'est un travail, c'est une passion, ça peut être un métier, je suis d'accord, mais c'est pas reconnu non plus. Donc, ça reste un petit peu compliqué quand on n'est pas Lola Lafont et qu'on vend pas des centaines de milliards de livres, quoi. Mais bon, ceci étant dit, voilà, c'est bien de connaître ses droits d'auteur. 10%, c'est bien. Et ensuite, si vous pouvez avoir un avaloir, c'est encore mieux. Alors, un bon tirage pour un primo-auteur, il faut s'attendre à peu près à 1500 exemplaires. 1500 exemplaires, c'est pas mal. Après, c'est sûr qu'il y a des paliers, ça peut dépendre. Je me souviens, ils avaient dit que, par exemple, Alice Zénitaire, elle avait vraiment décollé avec L'Art de perdre, son bouquin. Elle l'avait vendu à 50 000 exemplaires. Bon, là, c'est sûr, c'est énorme, quoi. En plus, elle avait eu le prix du Goncourt des lycéens. Si vous avez un prix, en plus, bon, là, c'est sûr, vous vendez vraiment très, très bien. Et en fait, l'avaloir, pour y venir, il est calculé en fonction de vos ventes. Alors, en fait, pour expliquer ce que c'est l'avaloir, c'est une somme d'argent qui récompense le travail que vous avez fait. Parce que quand vous arrivez avec un manuscrit et que bah, vous n'avez pas publié avant, vous avez travaillé pour ce manuscrit-là. Vous y avez passé du temps, c'est du travail. Donc, les grandes maisons d'édition vous donnent... Donc, elles acceptent de publier le bouquin, vous signez le contrat, et elles vous donnent un avaloir. En général, pour les primo-auteurs, ça peut aller, on va dire, de 1500 jusqu'à 5000. Mais 5000, c'est vraiment... c'est exceptionnel, hein. 5000, c'est beaucoup pour un primo-auteur. Donc, elles vous donnent cet argent-là, et elles publient votre bouquin. Ensuite, quand votre pourcentage de droits d'auteur dépasse l'avaloir, en fait, c'est une manière de rembourser la somme, on va dire. Dans tous les cas, l'avaloir, vous le gardez. Ça, c'est évident. Et si les ventes, si les ventes ne dépassent pas l'avaloir, pas de souci, vous le gardez. Ça, c'est illégal. Hein. Aucune maison d'édition a le droit de vous demander de rembourser l'argent qu'elle vous a donné. Par exemple, si vous arrivez, on publie votre manuscrit, on vous donne 5 000 euros. Si les ventes de votre manuscrit ne dépassent pas 5 000 euros, c'est pas grave, hein, vous les gardez. Ça, il n'y a pas moyen, c'est illégal. Mais si les ventes dépassent le montant, là, vous touchez les droits d'auteur, en fait. C'est ça qui est un peu particulier dans ce système, je trouve. Mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, bon, bah, c'est un plus, quoi. Après, il faut savoir que les petites maisons d'édition ne donnent pas d'avaloir, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et il y a des grandes maisons d'édition qui ne donnent pas d'avaloir, parce que c'est comme ça. Et ça, je trouve ça dégueulasse, parce qu'elles en ont vraiment les moyens. Mais quand vous êtes primo-auteur, Gallimard, il ne vous donne pas d'avaloir. C'est comme ça. Vous avez vos droits d'auteur, et puis c'est tout. Et encore, il faut les négocier, hein, parce que, attention... Vous pouvez vous faire arnaquer. Enfin bref, voilà, c'est dégueulasse. Faut arrêter, quoi. Et voilà. Donc l'avaloir, c'est toujours bon de le demander, hein, même s'il n'est pas stipulé dans le contrat, c'est toujours bien de négocier. Voilà, ça montre que vous connaissez vos droits. Et c'était un conseil de la prof aussi qui expliquait que, voilà, il ne faut pas hésiter à négocier, mais dès le départ. Parce que pour votre propre crédibilité, votre propre confiance en vous, c'est hyper important. Ce n'est pas un truc qui se construit au fur et à mesure. Ça peut, bien sûr. Au fur et à mesure, on connaît, machin, tout ça. On a des échos, on est un peu plus dans le milieu. On a des amis qui font ça aussi, qui connaissent. Mais c'est bien de le commencer dès le départ, en fait. Comme ça, ça montre aussi que vous touchez un peu et qu'on ne peut pas vous arnaquer n'importe comment. Parce que ça arrive. Voilà, je relis un petit peu mes notes, mais je pense qu'on arrive au bout. Voilà, et c'est vrai que par rapport à votre première vente, si vous arrivez pour votre prochain manuscrit dans la même maison d'édition, pour l'avaloir, il va voir combien vous avez vendu. Et en général, c'est calculé un peu en fonction de ça. Si vous avez bien vendu, votre avaloir, il va grossir. Et puis après, bon, si vous êtes vraiment des autrices, des auteurs extrêmement connus, là, vous avez des avaloirs. Je crois, elle avait dit dans Bookmaker, Lola Lafon, pour le dernier, c'était 76 000 euros. Mais ça peut être plus, hein, bien sûr. Donc bon, là, on est quand même sur des sommes... Ça ne sert pas d'exemple, on va dire, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas de tout le monde. Voilà. Donc ça, là-dessus. Ça, j'ai dit. Et ouais, moi, c'est une question que je me pose, en fait, du coup. Parce que je suis un peu pas à la croisée des chemins, mais c'est un truc que je réfléchis beaucoup dans ma vie en ce moment. sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Parce que bah, moi, j'avais 25 ans, je vais avoir 26 bientôt. Je suis actuellement au RSA depuis plusieurs mois. Et ben, j'écris, voilà. Mais bon, je cherche du taf et j'ai envie de rentrer dans le milieu un peu de l'édition, quoi. Donc, je cherche du travail, tout ça. Mais la vraie question, c'est... parce que j'écoute beaucoup bookmakers, c'est les auteurs, les autrices, comment ils ont commencé, qu'est-ce qui se passe après avec leur vie, tout ça. Et en fait, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de se lancer vraiment dans une vie où je vais faire qu'écrire? C'est pas que ça me passionne pas, moi j'adorerais faire ça, être payée pour écrire des livres. Le problème, c'est que ça s'engage à une production, parce que sinon c'est pas vivable. On peut pas vivre de l'écriture comme ça, si on n'écrit pas des livres régulièrement quand même. Hein. Sinon, il faut avoir un autre métier à côté. Et ma question à moi, c'est comment on fait pour produire régulièrement des livres? Enfin, je sais qu'il y en a qui arrivent très bien et c'est pas le problème, mais je crois que quand... Après, j'ai peut-être une ambition démesurée pour mes espérances dans la littérature, mais quand on n'a vraiment pas envie de faire des livres moyens, entre gros guillemets, encore une fois, hein, c'est pas moi qui... Moi, je pense pas vraiment ça, mais je comprends ce que voulait dire Alain Damasio dans ce sens-là. C'est-à-dire quand on a vraiment envie de que ça vienne des tripes et faire un bouquin dans sa vie, à la limite, mais vraiment le bouquin qui est important, qui permet de faire bouger les choses ou de réfléchir, on fait comment pour vivre après de l'écriture, en fait?
Mais ça peut être... Le problème de... C'est différent pour tout le monde, en fait.
Bah parce oui.
Que je vois la passion, et je suis un peu pareil, le truc de mettre ses tripes dans le bouquin, mais c'est un problème, parce que je pense que ça bloque sur une œuvre, et tu peux être très vite déçu, d'ailleurs, même si tu te prépares et tout, parce que si tu te dis, mais en fait, moi, ce bouquin-là, je vais pas spécialement vivre, je sais pas si je vais écrire après, mais je veux que celui-là, absolument, il soit, entre guillemets, parfait. On sait très bien que la perfection... Elle n'existe pas, entre guillemets, et ce n'est pas la perfection qu'on recherche, c'est être sûr qu'on a mis ce qu'on voulait y mettre et qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est dit dans ce bouquin qui peut faire bouger des choses, comme tu dis. Mais il y a moyen que ça nourrisse des espoirs qui peuvent être très vite déçus. Donc là, c'est encore un cas particulier par rapport à toi. Après.
Non, mais même pas par rapport à moi, mais enfin, le truc de vraiment créer, de produire vraiment de l'art, en fait. Ça peut pas engendrer des chefs-d'œuvre à chaque fois.
Non.
On peut pas faire ça à chaque fois. Donc les gens qui veulent vivre de leur passion, là, la littérature, d'accord? Tu veux être autrice, auteur, tu fais des lectures publiques de temps en temps, d'accord? Mais il faut, au bout d'un moment, il faut que tu écrives, il faut que tu... c'est même pas tellement beaucoup vendre, parce que là, tu peux te débrouiller, même si tu vis pas forcément bien, et encore une fois, t'as pas de retraite après, au bout, hein. Donc qu'est-ce que tu vas faire après? Bon, tu vivotes, tu te débrouilles. Ça, à la limite, ça me fait pas vraiment peur. C'est juste que je sais pas. Parce que je discutais de ça aussi une fois avec un mec qui adore la musique. Et il me disait qu'il était content de pas avoir fait de la musique son métier. Ou son moyen de subsistance. Je lui disais, comment ça? Parce qu'il me disait, mais c'est bien d'avoir un métier à côté. Parce que t'es traversé par la vie, t'es traversé par des rencontres, par autre chose. Même des choses pourries et négatives, quoi. Mais... au moins, la musique, elle est traversée par ça, elle est vivante. Ton univers ne te rétrécit pas, tu n'es pas concentré que sur toi-même. Et tu n'as pas tous les mauvais aspects. C'est-à-dire, quand ça te gonfle, quand ta passion te gonfle, si tu en fais ton métier, tu vois. Et je disais, ouais, d'accord, mais du coup, est-ce que tu es prêt à te lancer dans un métier que tu n'aimes pas? Je sais pas. Moi, encore une fois, je suis à la croisée des chemins. Enfin, j'essaie de trouver un métier qui m'intéresse et de pouvoir écrire à côté. Et ça, je sais que je le ferai de toute façon. Mais parfois, tu peux pas. Tu t'as pas. Parfois, t'as pas de métier qui t'intéresse et tu fais un métier que t'aimes pas.
Mais pas forcément. Faut pas y aller. Je vais être la voix de la sagesse parce que je vais avoir bientôt 30 ans. Bon, j'en ai 29 et ce sera l'année prochaine. Mais en fait, c'est encore des réflexions que moi je mène personnellement, parce que si je n'intègre pas le marché du travail, c'est pas parce que je suis une feignante comme nos chers amis voudraient nous le faire croire.
Mais non.
Mais c'est parce qu'il y a cette réflexion de, en fait, bah voilà, je sais que moi par exemple de mon côté, je veux faire de la photo. artistiquement parlant. Donc en plus, il y a d'autres trucs qui se rejoignent en termes de métier, parce que tu peux être photographe studio, photographe de produits publicitaires, comme tu peux être dans le milieu de l'écriture, mais faire des briefs, des spots publicitaires, concepteur, rédacteur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être journaliste, tu peux être pigiste. Ben... Et en fait, il faut trouver... D'accord, ce ne sera pas un métier qui va t'emballer. Et c'est pas perdre son objectif de vue. C'est-à-dire, ce métier-là, il va venir financer quelque chose, probablement, payer tes factures et tout. On parle souvent du mi-temps, alors ça, c'est très compliqué, mais en même temps, bah, si tu veux pouvoir faire ce que tu as envie de faire à côté, 35 heures, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Bah ouais,
ou alors, c'est sur de la durée du CDD, et puis bah, tu te dis pendant 6 mois, comme ceux qui partent à l'étranger pour mener à bien des projets ou des choses comme ça, ou tout simplement juste pendant 6 mois tu taffes, pendant 6 mois tu écris, et ta vie se coupe entre guillemets comme ça. Après, pendant les 6 mois où tu travailles, je dis pas qu'il y aura des moments où tu auras vraiment envie d'écrire et que tu arriveras à te dégager du temps le week-end, mais. C'est rare, hein, c'est dans tous les métiers artistiques. Moi, en tout cas, dans mon entourage, j'ai pas quelqu'un qui travaille pas à côté. J'ai pas quelqu'un qui.
Ou alors un temps, ma mère, elle a réussi à vivre de sa peinture quelques années, mais elle peut pas dire qu'elle a fait de la peinture sa vie, quoi.
Après, ça dépend encore des domaines, parce que je sais que dans le milieu de la musique, pour avoir rencontré quelques artistes là quand j'étais. À Toulouse les orgues, bah, ils se démerdent, hein. ils en vivent, ils arrivent à se dégoter des dates, ils arrivent à avoir un agenda rempli toute l'année.
Après ça dépend aussi du milieu et de ce que tu fais,
même
tout simplement.
L'écriture, ouais. L'écriture, à mon avis, c'est beaucoup plus...
Mais c'est vrai qu'à la SGDL, donc la Société des gens de lettres, y a un débat là-dessus. Hein. Y en a qui disent qu'il faudrait avoir un statut d'intermittent d'auteur ou d'autrice, voilà. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord.
Ouais, parce que là, tu es en entrepreneuriat, je crois, quand tu es auteur.
Il y en a qui pensent que soit on se débrouille, on se décide de se consacrer qu'à l'écriture. Ça veut dire qu'on s'engage à écrire régulièrement, à produire des livres, voilà, des lectures. On se débrouille, mais on ne vit que de ça. Soit on a un métier à côté. Et en fait, sociologiquement, aujourd'hui, la plupart des auteurs-autrices sont profs. Il y en a beaucoup, la plupart. Et sinon, tout simplement, sans rentrer dans des trucs sociologiques, ben en fait, la plupart des auteurs et autrices en France travaillent. Ils ont un métier à côté. Mais vraiment, un vrai métier, pour le coup, entre guillemets, hein, je dis. Ouais, vrai métier dans le sens du statut, quoi. Avec la retraite, avec un chômage, avec machin, avec tout
ça. Tu cotises, hein, quand on dit qu'il n'y a pas de retraite. Il n'y en aura pas si on ne continue pas à se battre. c'est pas pour dire des bêtises, mais il faut mieux se renseigner là-dessus, parce que nous, on n'est même pas allé jusqu'à se demander comment finance sa retraite, vu la situation dans laquelle on est. Mais il y a l'AGSA, je crois, et la Maison des artistes qui font office d'organisme pour pouvoir... cotiser. La Maison des artistes, c'est pour les artistes graphiques et plasticiens. Et l'Association de gestion de la sécurité sociale des auteurs, ben, c'est pour les écrivains, les auteurs-compositeurs, les chorégraphes, etc. Et donc, il y a quand même ces organismes-là qui permettent de... Mais après, il faut en détail, c'est toujours très compliqué quand tu regardes sur... Il faut prendre le temps, parce que tu as des sites qui t'expliquent ça, mais combien tu cotises, les trimestres et tout. Moi, je trouve ça toujours hyper laborieux. Et...
Ouais, c'est compliqué. Mais il explique aussi sur la Société des gens de lettres, hein, du coup. La SDGL, allez jeter un coup d'œil, vraiment. Si, en tout cas, ce qu'on raconte là depuis tout à l'heure, ça vous parle un peu, quoi. Vous vous sentez concerné par, vivre... avoir un métier comme ça, artistique, quoi. Comment on fait comment, voilà. Mais pour en revenir au manuscrit, en gros, pour terminer, une fois que vous avez signé le contrat, que vous avez bien négocié, que vous êtes d'accord, il y a le travail de la correction éditoriale, ça dure à peu près un mois. Donc il y a la correction de la forme et du fond. Donc ça reste toujours... la forme, non, c'est pas des conseils. C'est-à-dire, si vous avez fait des fautes d'orthographe, vous les corrigez, c'est tout. Par contre, le fond, ça reste des conseils. Hein. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Il est parfaitement illégal. L'éditeur n'a aucun droit de modifier sans accord le texte. Hein. Ça, c'est parfaitement illégal. Donc voilà, une fois que vous êtes mis sur le fond... elle nous disait quand même, un éditeur, une éditrice connaît son métier. Donc parfois, la plupart du temps, ils ont raison. Souvent, c'est un métier passionnant d'ailleurs, parce que là, je parle des maisons d'édition comme des monstres succubes, surproductrices dégueulasses, mais c'est un métier qui est très beau aussi, hein, enfin, vraiment. Éditeur, éditrice, faut avoir le pif, faut savoir faut vraiment bien connaître le texte en fait. Et c'est un métier passionnant. Donc la plupart du temps, ils ont raison quand ils disent là, ça marche pas, là, on comprend pas. Voilà, mais ça reste vous qui avez le dernier mot, ça de toute façon. Et ensuite, il y a le travail de couverture. Il est proposé par l'éditeur. L'auteur a la possibilité d'inclure une clause dans le contrat où il a le droit de regard, mais il n'aura jamais le dernier mot. Mais ça peut être pas mal. Ça évite de se retrouver avec des couvertures dégueulasses, quoi, vraiment dont vous avez honte. Ça peut arriver. Voilà. Et donc, vous avez quand même une date limite. Ça, c'est sur contrat. L'auteur, son obligation, il s'engage à rendre le texte parfaitement corrigé, terminé, à la date limite, pour qu'ensuite l'éditeur ou l'éditrice puisse le publier, évidemment. Puisque parfois, il y a des dates clés. Par exemple, la rentrée littéraire, il y a des éditeurs qui sentent un bouquin comme ça qui pourrait bien marcher pour la rentrée, ils lui disent « Bon, là, c'est limite, quoi. Hein, c'est cette date-là et pas autrement. » Et une fois le manuscrit corrigé entièrement, l'éditeur le renvoie à l'auteur, ça a encore une dernière passe de ping-pong là, avant impression, si tout est ok, voilà, c'est terminé, on arrête de lire ce bouquin. Je pense qu'à la fin on le déteste d'ailleurs.
Ah oui, mais elle l'a dit, mais ouais. C'est pas ça le
t'en peux plus de relire ton texte 15 000 fois, quoi, c'est bon.
Je crois que tu le réécris, c'était un ordre de grandeur, c'était un autre prof qui nous avait dit ça, tu le réécris 7 fois ton bouquin.
Ouais, c'est ça, tu le réécris 7 fois en tout, quoi. Surtout, non mais je pense aux pauvres personnes qui ont fait des pavés de 1500 pages. Ouais. Encore quand t'as une trentaine de pages et que c'est de la poésie. À la limite.
Et encore.
Bon, voilà. Et donc, si tout est OK, on signe un bon à tirer. Le bon à tirer, c'est le manuscrit, il part pour impression. Il n'y a aucune possibilité de le modifier après. Et ce bon est obligatoire. Et ensuite, voilà, vous êtes publié. Vous pouvez lancer ou pas votre carrière dans ce monde-là.
Yes. Ouh.
Voilà. Bon, c'était un épisode un petit peu plus particulier aujourd'hui, puisque on est à deux avec Laura, et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais envie de dire un truc un peu utile, rendre le monde si obscur, comme ça, de ce statut d'auteur, d'autrice, mis à part que, éventuellement, ça reste toujours... je sais pas pourquoi, c'est un vieux truc du 19e, là, c'est toujours perçu comme de manière un peu classe. Non, mais il y a un côté un peu impressionnant, c'est-à-dire si tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il te dit j'écris des livres et je les vends, ça reste toujours un peu, ah ouais, c'est un artiste incroyable. Il y a un autre côté quand même, il y a toujours derrière la vie d'artiste, il y a quand même la vie plus concrète, donc voilà, donner.
Il n'y a pas que des bouquins de poésie, enfin voilà, il y a des bouquins.
Bah oui, voilà, et puis ça, c'est toujours, on en fait toujours un peu secret d'état, quoi, on sait jamais, j'ai jamais trouvé un truc qui expliquait réellement comment on envoie un manuscrit, comment on le fait.
On espère un jour pouvoir recevoir une maison d'édition.
Ouais, mais c'est important de l'expliquer, c'est pas un secret d'état, quoi, ouais, voilà, faut le dire, comment on fait, machin, tout ça, c'est de la technique, quoi.
Recevoir un jour une maison d'édition, bah évidemment qui est ouverte à ça, après chaque maison d'édition a un fonctionnement plus ou moins similaire avec leurs particularités évidemment, mais c'est sûrement super intéressant parce que du coup nous là on est du regard qui est déjà pas mal intéressant et puis on n'a rien inventé pour le coup pour la majorité de ce que tu as dit, c'est des auteurs et des autrices qui nous en ont parlé, qui ont déjà publié, mais en effet c'est toujours bien d'avoir l'autre rapport et les maisons d'édition qui sont en face, comment elles fonctionnent réellement, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à partager entre guillemets avec les auteurs et les autrices et à enlever cette espèce de mystère qu'il y a autour de l'édition, quoi.
Voilà. Donc, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Laura. C'était hyper agréable d'avoir cette petite conversation.
Ça a aidé pas mal de personnes. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se lancer là et qui sont en train de faire leur petite liste de publications.
Je leur souhaite en tout cas, il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'était donc un épisode des Lessiveuses. Et puis, dans 2 semaines. Voilà.